Salut les princesses. Dans une France tétanisée par les prémices d'une nouvelle canicule, joint à une prestation plus que moyenne de l'équipe de France, heureusement le New Breakfast Club est là. Là pour vous redonner un peu de peps, un peu d'énergie, beaucoup de musique aujourd'hui, beaucoup de bonne musique.
J'espère, ouais.
Avec pour commencer une nouveauté choisie par tes soins.
Oui, une nouveauté qui va s'inscrire dans le thème de l'émission, puisqu'on va vous parler aujourd'hui du toujours difficile cap du second album. Alors c'est une légende, qui artistique, qui marketing ou qui journalistique. Il semble que ça soit toujours dur de réaliser un deuxième album. Et moi je vais vous passer un extrait du deuxième album d'un groupe qui s'appelle Tilly and the Wall, qui est pas très connu encore en France.
Un deuxième album qui est inconnu pour ton serviteur.
Et bon, on va arranger ça très vite. Qui à l'occasion de son deuxième album justement, est déjà vilipendé par la presse parce qu'on trouve que c'est un petit peu en dessous du premier. Et pourtant, moi je trouve ça quand même vraiment pas mal. Je n'ai pas entendu le précédent, mais ce disque-ci me plaît beaucoup. Tilly and the Wall, c'est un groupe américain. Leur particularité, parce qu'ils en ont une qui est assez nette, c'est que il y a pas de batterie dans le groupe et que toutes les rythmiques sont effectuées par des claquettes soutenues par des voix des choristes, mais l'autre particularité qui nous les amène bien proche de nous, c'est que c'est complètement pop.
Cradle the crow, always shoot off the dove, which tagged me a naive son. So the fortunate kids, yeah, they left on their lights, and they stuck up their noses and started some fights. Their parents all cackled at dirt on my hands, while my father was slaving, my mother explaining, sometimes that's just how it is. So my sister, we'll be right back.
des arcs-en-ciel dans le noir, Rainbows in the Dark, sur l'album Bottoms of Barrels de Tilly and the Wall.
Très bon choix pour cette nouveauté de la semaine. Je suis ravi que tu nous aies fait découvrir ça. Simplement une question tout de suite, mais pourquoi ce mauvais accueil pour ce second album? Quels sont les arguments des critiques?
C'est pas un mauvais accueil, c'est juste qu'ils le trouvent un petit peu en dessous du précédent. Mais je pense que le précédent était pas aussi avait pas aussi cette même joie un peu folk barré famille qu'on peut retrouver chez les Fieru Furnaces par exemple, ce côté un petit peu bricolo. Je crois que c'était un petit peu plus indé, un petit peu plus sérieux peut-être.
Moi je trouve qu'il y a une énergie, une pétulance
et puis qui se tient vraiment sur le disque entier, ce principe qui pourrait être la fausse bonne idée de cette rythmique faite à base de claquettes, bah ça marche plutôt bien, on l'oublie finalement assez vite et ça marche.
Ça rappelle de glorieux anciens hein, j'irai pas jusqu'à Spectre mais j'en
vas-y si tu veux.
J'en serai pas loin. Alors j'en serai pas loin, sais-tu. Alors un univers complètement en décalage avec ma reprise, ma cover cette semaine, puisque loin des États-Unis, loin des États ensoleillés, je vais aller à l'est de l'Europe, mais vraiment très à l'est, dans des contrées qu'on n'a pas tellement l'habitude d'aborder au New Breakfast Club, sauf lorsqu'on parle de
plombier,
de football et de plomberie, puisqu'on va parler un petit peu de Pologne. Les pauvres hier soir ont laissé s'envoler sans doute une grande chance d'atteindre le second tour, mais peu importe, puisqu'on va parler de la passion qu'ont les pays de l'Est et la Pologne au premier chef pour un groupe que je suis en train de redécouvrir, et même si je sais que j'ai beaucoup de travail à faire, j'y mets les bouchées doubles, c'est Depeche Mode. Depeche Mode jouit d'un culte absolument extraordinaire dans ces pays-là, et il n'y a pas une année sans que ne fleurisse un groupe de tribute, alors
ouais.
Grec, polonais, russe. Alors parfois c'est du death metal, mais parfois c'est un peu plus intrigant, c'est un peu plus attachant, comme sur cette reprise de Enjoy the Silence par Moonshine.
Like violence, break the silence. words are very unnecessary. They can only do
Alors là, je dois mes plus plates excuses à nos chers auditeurs. Il s'agit, c'est pas
et à
de...
la Pologne entière.
Oui, à la Pologne entière. Il s'agissait pas de Moonshine, mais de Moonlight, un groupe polonais qui reprenait Depeche Mode. On voit bien ce qui chez Depeche Mode peut plaire à des groupes qui sont limite gothiques, quoi. Hein.
Oui, oui, mais de toute façon,
il y a ce versant-là.
Ce titre-là, en plus, ça doit être le titre le plus repris par les formations gothiques, des groupes que j'aime pas beaucoup, comme Lacuna Coil ou le chanteur Im, ouais. Qui sont voilà pour le gothique moderne des flèches. Hein. Mm. C'est ce titre-là qu'ils avaient choisi dans leur reprise. Moi, je n'aime pas beaucoup cette reprise-là qu'on vient d'entendre, parce que je trouve que le son n'est pas métal, mais je trouve que c'est vraiment un traitement métal. Je trouve que c'est les arrangements, la voix de fille, le truc un peu en force. J'aime bien un petit peu les cloches ou le piano au tout début du morceau. Après, j'aime pas comment il se déroule.
Ouais, moi, c'est ça qui m'a accroché, effectivement. Et puis l'énergie qui met la chanteuse,
parce que
sans fioriture.
Le final, là, la voix seule, on se croirait vraiment dans du gothique des années 2000.
C'est pas ce qu'il y a plus réussi. Ouais, je suis en accord avec toi.
Mais bon.
Chouette, un nouveau jingle.
Oui. Alors,
il est très sympa en plus.
Alors, figure-toi que c'est un morceau de 1963 d'Alice Donna.
Elle composait déjà, oui.
Je sais pas s'il est d'elle. C'est un morceau qui s'appelait C'est pas prudent. C'est un 45 tours 4 titres qu'on peut trouver sur la fabuleuse collection des Ultra Chics, qui est une collection de yéyé alternatifs français, mais réalisé par des Canadiens. Et donc c'était sur le tout premier volume qui s'appelle Feel in the Garage.
Mais c'est fou comme les Canadiens, les Anglais ou même les Japonais ont réhabilité tout ce pan de notre culture, alors que nous on y touche toujours avec des pincettes.
Oui, nous on l'ignore toujours un peu. Alors donc c'est le nouveau jingle des Trésors Cachés.
Très très bien en tout cas.
Et mon trésor caché, moi c'est mon premier finalement, parce que on t'avait confié les deux premiers.
J'en ai fait deux sans
jingle. Donc j'ouvre enfin mon propre bal, et je vais vous parler aujourd'hui très très brièvement d'un monsieur qui s'appelle Emmett Rhodes. Un monsieur qu'on n'a donc pas souvent l'occasion d'évoquer, qui était le leader des Merry-Go-Round, qui est un groupe qu'on n'a pas l'occasion d'évoquer non plus beaucoup.
Décidément aujourd'hui, c'est complètement les lèvres.
Voilà.
Je n'y connais rien.
C'est un groupe. Les Merry-Go-Round, c'est un groupe de pop un peu baroque et qui était très influencé par Magical Mystery Tour des Beatles.
Il y a pire comme influence.
Qui n'a fait qu'un album. Et le leader, Emmett Rhodes, s'est lancé dans une carrière solo où il s'est dit qu'il allait pas cacher plus longtemps si ce n'était pas déjà fait. Son admiration pour Paul McCartney.
Il joue carte sur table.
Au point que finalement, quand on l'entend chanter, on croit tout simplement tomber sur un inédit de Paul McCartney, comme ce titre-ci de 1971, Better Side of Life. You don't have to be alone, feel alone. You can have someone and still be alone. Everything there ever was will never be again. Lonely, lonely people now, wondering where we've been. Rarely does it take you more than once or twice to learn that love is so much cheaper when you let the fever burn. And there's a strong possibility that we might often fail to see the better side of life. Frozen dreams of lighter things is all we have to share. Loneliness will capture you in moments of despair. And look forevermore. And there's a strong possibility that we might often fail to see the better side of life. You don't have to be alone, feel alone. You can have someone and still be alone. Everything was will never be again. We're on
at the fever burn. And there's a strong possibility that we might often fail to see the better side of life. You don't have to be alone to feel alone. You can have someone and still be alone.
Better Side of Life, sur le premier album d'Emmitt Rhodes en 1971. Emmitt en a fait que 3 disques, et le deuxième, il l'a fait la même année, poussé par sa maison de disques, parce qu'il avait eu un petit succès avec le premier. Et du coup, il n'était pas très à l'aise, il a fait un deuxième album qui était très très moyen.
Ouais.
Donc, il s'inscrit complètement dans notre thématique du jour. Et le troisième était...
Il a eu un hit ou pas?
Je crois que ce titre-ci et ouais. Lullaby, qui est sur le deuxième album, sur Mirror, ont marché. Alors, j'ai pas la science infuse, hein, Emmitt Rhodes, je l'ai pas sorti d'un panier. Si je m'étais approché de ce garçon, c'était grâce à la BO du film The Royal Tenenbaum de Wes Anderson, dont on vous a déjà parlé
très
ici.
Bon film.
Un très bon film et une très bonne BO, comme à chaque fois chez Wes Anderson.
Il y avait Kurt Smith aussi.
Oui, Elliot Smith, il y avait Nico, il y avait Nick Drake, il y avait cette couleur-là. Ouais. Les films de Wes Anderson sont toujours supervisés musicalement par Mark Mothersbaugh, qui est l'ancien leader de Devo, et qui doit avoir une discothèque et une oreille qui auraient complètement leur place dans nos studios.
Ah, tu sous-entends que Rushmore était aussi supervisé par...
Je le sous-entends pas, je le sais, je l'affirme.
Ouais, ouais, ouais. Ah, ceci explique
et
peut-être
puis,
cela.
Et
ouais.
Puis The Life Aquatic of Steven Sissou aussi.
Ah oui.
Ah, oui, c'est lui qui couvre à chaque fois les musiques. Si on se passait à ce gros thème du jour.
Et avec plaisir.
Allons-y, tiens. Introduire succinctement l'idée de
alors,
ce thème de deuxième album.
Il faut dire d'abord que c'est un concept qui vient des anglo-saxons. C'est eux qui ont introduit l'idée de sophomore album, donc qui veut dire le deuxième album, c'est-à-dire l'album qui vient après généralement une reconnaissance publique, critique ou commerciale.
C'est un phénomène qui n'est pas très vieux, c'est pas depuis le début de la musique.
Non, pas du tout, parce que par exemple, le phénomène ne joue pas avec les Beatles, ne joue pas avec Elvis.
Absolument, qui sont plutôt... Tel Zidane, des artistes qui vont monter en puissance, à qui on demande pas le chef-d'œuvre au premier coup, et qui ont surtout le temps de développer une carrière.
Et elle provient surtout d'une période où l'album se tient en tant que tel. Elle ne provient pas d'une période où les albums, les 33 tours, n'étaient qu'une succession de 45 tours qu'on mettait à la suite des autres. Et puis, quelques titres de remplissage. Mais à partir du moment où on a conçu les albums comme des concepts, avec une pochette, un travail de designer et tout ça, eh bien, il y a eu cette idée de sophomore album.
Bah, cette idée vient aussi du fait qu'on se dit que si, par exemple, on fait son premier album à 20 ans, on a mis 20 ans pour réaliser ce premier album et que le second va mettre un an ou deux seulement pour le faire.
Le parallèle d'ailleurs pourrait être fait avec des romans ou avec des films.
Tout à fait,
oui. On voit souvent des premiers albums qui parfois certes brouillons mais regorgent d'idées, innovateurs, intéressants et tout ça. Et parfois une lassitude pointe sur le deuxième, surtout un essoufflement de l'inspiration.
Une carrière entière qui essaye de retrouver la fraîcheur du premier jet.
Mais... Et c'est, je pense, l'intérêt de cette émission. On va voir que beaucoup de...
Il y a plein de cas particuliers.
Et, voilà.
Oui,
et que beaucoup de deuxième albums ne sont pas forcément des succès d'année moins intéressants des premiers albums. Ils sont parfois même une rupture idéologique par rapport au premier. C'est le cas, par exemple, avec mon premier choix, Jesus and Mary Chain. On a sur le premier album de Jesus and Mary Chain, une avalanche
Psycho Candy,
pardon.
Voilà, lapsus, ils vont aujourd'hui. Hein.
Oui, oui. Il était beau celui-là. Ouais. Et on a une avalanche sonique, un mur de guitare, une volonté de conjuguer Surf City avec le Velvet Underground, mais le Velvet Underground dans ses aspects les plus hermétiques, celui d'European Sun ou de White Light White It, qui donne des choses parfois à la limite de l'inaudible, à part peut-être
à la limite de l'audible,
à part peut-être le single Just Like On It, et puis tout d'un coup, moins de 2 ans après, les Jesus and Mary Chain sortent Darklands, qui est un album apaisé, avec une sorte de classicisme, comme si ils s'étaient débarrassés de tous leurs fantômes sur le premier album, et qu'ils pouvaient atteindre la quintessence de leur musique, ce qui donne des morceaux que je trouve absolument prodigieux, comme celui-ci. Comme si sur ce titre, Happy When It Rains, les Jesus and Mary Chain n'avaient plus peur d'exposer leur talent mélodique, leur capacité à enflammer le cœur de leurs fans. Ça n'a pas pris beaucoup de rites, ce morceau.
Non. Bon, ça avait été réhabilité il y a pas très longtemps s'il y avait besoin de le réhabiliter, mais par Sofia Coppola. Jesus and Mary Chain apparaissait sur la BO de Lost in Translation. Je ne sais plus si c'était
Just Like Honey. C'est Just Like Honey. Sur Lost in Translation.
Alors moi, pour introduire les albums dont je vais vous parler aujourd'hui, les deuxièmes albums dont je vais vous parler, je vais procéder par petits jeux.
Oui.
Non.
Il y a pas de la revanche dans l'air.
Dans la forme, oui, évidemment. J'y ai bien songé que ça pouvait ressembler à une revanche. mes calamiteux résultats de ton jeu foot de la semaine dernière.
C'est même pas vrai. Attends.
Mais là, on est quand même vraiment dans notre cours. Je vais te citer des artistes et tu vas me proposer, proposer en tous les cas, c'est de trouver leur deuxième album qui soit meilleur ou moins bon, peu importe, c'est savoir si t'arrives à remettre le doigt dessus.
Bon,
je vais commencer avec facile et peut-être d'ailleurs que je vais me tromper, donc on va voir ça tout de suite en te parlant des Beach Boys.
Les Beach Boys, leur deuxième album, c'est Surf a Girl.
Eh bien, moi j'ai Surfing USA en 63.
Oui, je me suis trompé. Le premier c'est Surfing Safari, le deuxième c'est Surfing USA, le troisième c'est Surf a Girl.
J'en étais pas certain parce que comme c'était, c'est une époque où les rééditions pouvaient un peu compliquer les choses. Je savais pas si c'était vraiment celui-ci.
Alors là, tu sais, on en parlait tout à l'heure. Là, il s'agit tout à fait parce que c'est des albums que je connais assez bien. Ouais. Il s'agit d'une montée en puissance. Surf a Girl est meilleur que Surfing USA, qui est meilleur que Surfing Safari.
Et puis ça viendra.
C'est encore une collection de simples liés par du du remplissage. Il n'y a pas vraiment de travail sur le.
Et que nous a fait Madonna pour deuxième album?
Eh ben, est-ce que c'est pas Like a Virgin?
C'est Like a Virgin. Ouais.
Là, c'était je connais beaucoup moins bien, mais c'est un album like très, très fameux. Ouais.
Radiohead.
Radiohead, The Bends.
The Bends, oui. Qui est un album de rupture aussi, qui ressemble pas au premier, qui ressemblera définitivement plus à ce qu'ils vont faire ensuite. C'est l'album le plus rock qu'ils aient fait, le plus classique aussi. Le cas particulier qui va nous amener à parler de Depeche Mode une nouvelle fois, des Cure.
Alors, Les Cures, le deuxième album, je dirais... Alors, attends, j'hésite. Il y a Boys Don't Cry 17 Seconds et on est entre les deux. Non, c'est pas tout à fait ça.
Je te laisse faire. Non, en fait, le sujet est un petit peu compliqué.
Three Imaginary Boys.
T'as cité les trois premiers albums, sauf que... selon comment on se place, parce que Three Imaginary Boys et Boys Don't Cry a deux titres près, c'est le même disque.
Oui.
Et selon les chapelles, c'est pas deux albums distincts puisque c'est plus ou moins une ressortie.
C'est la même chose que At Full of Hollow et le premier.
Voilà, tout à fait. Donc comme c'est un peu confus, ou bien on considère que c'est Boys Don't Cry le deuxième en 1980 qui est mais une réplique de leur premier disque, ou bien 17 Seconds qui est donc le premier de la Doom Trilogy. Et si je veux en venir à ce problème du deuxième album qui n'en serait encore qu'un premier, c'est parce que justement c'est à peu près le cas de A Broken Frame, le deuxième album de Depeche Mode. Tout simplement, deuxième album sur les 13 qu'ils ont réalisé jusqu'alors. Cet album qui est sorti en 82, c'est le deuxième album du groupe, sauf que c'est le premier album entièrement piloté par Martin Gore, parce que le premier Speak and Spell a entièrement été composé par Vince Clark, le clavier, et il quitte le groupe après ce disque, et du coup c'est quasiment, même si le line-up est à part Vince Clarke le même, c'est une inspiration totalement différente qui prend les commandes. C'est-à-dire que
Vince Clarke beaucoup moins technopop, c'est ce que tu veux dire?
Oui, Vince Clarke était plus technopop, plus naïf et à la fois un peu guindé dans les morceaux qu'il proposait. C'est pas un jugement de valeur, mais un truc de technopop un peu tendu. Et avec Martin Gore, qui s'essaye donc à la composition très rapidement, puisque avec le single See You, il va d'ailleurs placer le groupe plus haut dans les charts que ne l'aura fait Vince Clarke avec le premier album, va venir tout le côté vénéneux, obscur,
fascinant.
Et fascinant du groupe. Ça va naître dès cet album-là, qui est encore très inégal, qui est souvent considéré comme le moins bon album de Depeche Mode dans les ouvrages de référence. Et pour autant, c'est là qu'on va sentir pour la première fois le chant de Dave Gahan se placer dans ce qui va être plus tard et pas du tout le petit chant pop de Just Can't Get Enough. On va déjà sentir la mise en place d'un univers comme dans un titre qui est le second de l'album, qui s'appelle My Secret Garden.
Have occurred, my very only secret, and I so secret anymore. No, my secret garden is not so secret anymore. Run through the fields, down to the edge of the water. Can't stay long. Such and such for hours in among the flowers.
I love it. I love it. I love it. Play the fool, act so cruel. I love it.
My Secret Garden sur A Broken Frame, et on est
très bien,
déjà
très belle
dans
fin,
une
très
compo bien. Complète, complète Martin Gore. Hein. On a et dans les thèmes mis en place, mais sur l'instrumentation, enfin tout.
Ah, j'aime beaucoup ce son de synthé. Hein, c'est vrai que tu m'aurais fait écouter ça à 15 ans, je serais parti en courant de la pièce où tu me faisais écouter. Mais non, là, je trouve ça très très bien.
Donc c'est un album qui est considéré comme carrément le moins bon de la discographie. Hein. Il a carrément lui le vrai syndrome du deuxième album parce qu'il est considéré comme le plus faible.
Et comme souvent, il y a toujours à aller voir.
Quoi. Ouais, aller voir.
Ne vous en laissez jamais compter.
Même et... par nous, vous laissez pas faire.
Et essayez toujours de voir ce qu'il y a derrière les poncifs, les clichés sur certains albums. Alors, justement, un album qui souffre justement de sa très très mauvaise
réputation.
C'est
quasiment la symbolique du thème du jour.
Hein. Ah, on est en plein dedans. Ouais. On est en plein dedans, c'est-à-dire... Alors,
jusqu'à son titre.
Voilà, Second Coming, c'est le deuxième album des Stone Roses. Les Stone Roses qui commencent à percer en 88-89, qui font un premier album magnifique, qui mettent à genoux à la fois les critiques et les stades, puisque ils font les grands festivals anglais, Glastonbury et tout ça. Et puis tout d'un coup, problème lié peut-être à l'accession au statut de star, mais problème lié à la consommation de drogue, problème lié aussi peut-être au manque d'inspiration. Enfin, toujours est-il que les Stone Roses vont attendre pratiquement 5 ans avant de composer et de donner au public leur deuxième livraison. Alors moi, je suis très très, on sera peut-être pas forcément d'accord sur ce deuxième disque.
Oui, parce que moi j'ai porté au Pinacle le premier. Hein. C'est un disque que j'ai écouté à l'âge qu'il fallait quand il est sorti et il me semblait indépassable.
Non, là on est tout à fait d'accord. Non, mais sur ce deuxième disque, moi je trouve qu'il y a le problème d'avoir trop attendu, c'est-à-dire trop de moyens, trop d'efforts dans la production, trop de compositions alambiquées, trop de solos de guitare. C'est l'album du trop. Trop long, des compositions qui dépassent pratiquement toutes les 5 minutes. La composition du dure 11 minutes, ouais. Celle de la fin dure pratiquement 6 minutes, 5 minutes 52.
C'est des morceaux qui commencent par un dispositif très classique et qui finissent en jam à chaque fois, interminable et assez peu inspiré.
Hein. Et bien justement, ce que tu dis est tout à fait accordé au titre que j'ai choisi, Stand Story Love Song, qui commence quasiment comme une chanson des Laz, c'est-à-dire comme de la pop mancunienne classique, et puis qui va s'en aller dans des vapeurs indianisantes. On sent aussi toujours l'obsession de Ian Brown pour la house music. Il a essayé de faire fusionner tout ça dans un morceau et je trouve que ça fonctionne peut-être, mais de façon très bancale. Ten Story Love Songs.
black and broken, and you need a helping hand. When you're so much in love, you don't know just how much you can stand. When your questions go unanswered, and the silence is killing.
Ouais, ça marche moins bien que le premier. Mais surtout, en plus, c'est non seulement le problème d'avoir attendu, c'est que les Stone Roses avec les Happy Mondays avaient inventé quasiment le genre du Manchester, dont on vous avait parlé dans une précédente émission sur les genres anglais. Mais c'était un genre qui a duré très très peu de temps, ce qui fait que ce disque arrive en plus après la bataille, quoi. Il est plus très en phase avec le monde dans lequel il débarque.
C'est un peu difficile peut-être pour les plus jeunes auditeurs, mais il faut se rappeler 1994. 94, quel est le groupe qui cartonne,
c'est Oasis,
c'est la Britpop. On est en pleine Britpop, on est en pleine régression, alors qu'au contraire, les Stone Roses essayent maladroitement
de faire une fusion avec le monde de la
dance. Plus personne ne voulait entendre ce genre de disque à l'époque.
Non, c'est vrai que c'était complètement hors du coup.
On continue le petit jeu.
Eh oui, avec plaisir. Alors
si bon, j'ai, pour le moment, été moyen. J'espère
peu
que.
Peu importe. Je compte pas les points.
D'accord. Bon, ça va. Là.
Qu'est-ce qui nous a fait Blondie?
Alors Blondie, il faut faire très attention parce qu'il y a un album éponyme. Il commence d'ailleurs par un album éponyme. Le troisième, c'est Parallel Lines.
Oui, qui est sans doute le chef-d'œuvre.
Et
à mon sens en tous les cas.
Et alors évidemment il y a le deuxième dont je ne me rappelle plus. Il y a Ex Offender. Là je dis simplement les titres des morceaux. Dennis.
Ouais, c'est l'album où il y a Dennis. Ouais.
Ouais, c'est l'album où il y a Dennis. Ouais. Hein, ça je.
Plastic Letters.
Ah, oh, je m'en veux. Mais alors là justement Blondie, tu vois, c'est typiquement le genre de choses que je dois aimer. C'est-à-dire ça mélange à la fois le punk new-yorkais avec l'héritage Shangri-La's girl group. Mais je sais pas, il y a toujours quelque chose qui m'empêche d'aimer leurs disques dans leur. Il y a des morceaux que j'aime bien.
Plastic Letters et Parallel Lines sont vraiment deux très bons disques.
Always Touched by Your Presence, Dear. C'est sur celui-ci?
Je peux plus le garantir.
Ça un morceau que j'aime beaucoup, mais
Le Gap Prince.
Alors, Le Gap Prince, c'est facile. Le Gap Prince, c'est aussi la même chose. C'est qu'il y a un titre, c'est comme Chris Isaak. C'est-à-dire qu'il y a le premier album, c'est avec un titre, et le deuxième est éponyme.
Le premier, c'est
Dirty Mind.
Non, pardon.
For You, c'est le troisième Dirty Mind. Pardon. Toutes mes excuses.
Et c'est Prince, l'éponyme.
Les Bee Gees. Le premier s'appelle Bee Gees First.
Voilà. Et je veux Bee Gees Second qui s'appelle
Horizontal
en 1968.
Bon, là on était chez moi.
U2, c'est une série à peu près facile.
Oui, ça, c'est facile là. Le premier s'appelle Boy et le deuxième October. Avec le même garçon sur la pochette.
Non, sur War, le même
sur
garçon.
Sur War, oui, le garçon.
October, c'est E4 dans une lande quelconque.
Oui. Oui.
La mèche au vent.
Il faut pas que je sois trop péremptoire.
Les Rolling Stones.
Ça se retourne vite contre moi.
Les Rolling Stones.
Là, c'est plus dur, les Rolling Stones. Parce qu'il y a tellement de compilations de singles.
Ouais.
De...
Puis en plus, alors, il y avait les tirages anglais, les tirages américains qui se mélangent un petit peu. C'est l'album qui s'appelle 12x5.
Ah,
en 1964. Et pour finir, alors eux, des gens qui sont finalement à contre-courant parce que ils font pas un premier album énorme et ils courent ensuite après. alors que l'époque le voudrait désormais, les White Stripes.
Alors les White Stripes, là par contre, je botte en touche.
Bah il y a un piège, ouais, il y a un piège parce qu'en fait les White Stripes, on les a connus en France à partir de Elephant, non, ou le
celui
précédent,
d'avant. Ouais,
celui d'avant.
Celui d'avant.
Donc, j'ai oublié le titre d'ailleurs, c'est malin. Oui. Mais leur deuxième album s'appelle Desteil, du nom de la revue hollandaise d'art contemporain des années 20.
Oui.
Et c'était une revue qui mettait en qui est proto Bauhaus et qui mettait en place des codes esthétiques très précis avec que des couleurs primaires, de la géométrie très très franche et nette et qui représente vraiment le visuel du groupe. Et je vais vous parler donc d'un groupe en l'occurrence Blur qui est dans le même cas que les White Stripes, c'est-à-dire qu'au moment où on les découvre en France, au moment où ils sont au cœur de la guerre avec Oasis
justement,
et ben ils en sont pas du tout à leur premier album, ils en ont enfin
c'était leur troisième.
Live, c'était leur troisième. Et donc, ils ont, eux, une vraie montée en puissance, comme on en faisait autrefois. On leur a laissé le temps de mener leur barque. Le premier album s'appelait Leisure, il était 1991. Et en mai 93, sort le second, qui s'appelle Modern Life is Rubbish. Alors, il y a deux éditions, une édition européenne à 14 titres et une beaucoup plus intéressante, qu'on trouve uniquement en import, qui, joue la carte du ghost track, comme c'était un petit peu la mode à l'époque. C'est-à-dire qu'il faut passer 23 plages à la fin du disque.
C'est marrant, il y a le même chose sur Second Coming, ouais.
Ouais, il faut passer 23 plages de blanc pour à nouveau avoir des titres éventuellement intéressants ou et pas nécessairement anecdotiques. La preuve, When the Cows Come Home est un fichu bon titre de Blur en 1993 sur leur deuxième album. Good morning, wake up.
Wake up with purpose and polite efficiency. Stuff vitamin pills down your health guarantee. A kiss and cuddle with the lucky girl. You get fed and watered, makes your head curl. And when the day draws in, you put on a record, put on something gentle, and wait for the cows to come home. Wake up a little voices to you eagerly. Mustn't let yourself sink financially. Don't listen to the accusation that you're tight. You could be the first man on your street to get it right. And when the day draws in, you go into Wall Street. It was a good time. Wait for the cows to come home.
Bon, évidemment, ils avaient pas mal écouté les Kings à ce moment-là. Hein.
Ah ouais, dis donc, comme
on était en pleine période de revival à l'ancienne 60s anglaise, ça s'inscrivait complètement dans l'affaire, quoi.
Non, mais chouette morceau, c'est vrai. C'est vrai, t'avais raison. Mais le chouette morceau
à venir,
ouais, c'est moi qui l'ai choisi et ça vient du deuxième disque de Placebo, Without You I'm Nothing. Alors là, on retrouve un petit peu la thématique que j'avais choisie avec Jesus and Mary Chain, c'est-à-dire un premier album où il y a des promesses, beaucoup de promesses, il y a un son.
Je l'adore le premier.
Ouais, il y a une voix, mais je trouve qu'il y a pas encore.
Ah, il y a une tension pas possible.
Oui, mais il y a pas encore de single pop. il y a encore un refus de d'aller à la radio, quoi. Ouais. Pratiquement, il y a une sorte de radicalisme qui.
Nancy Boy, c'est quand même un tube de radio, hein. Et Bruce Springsteen aussi. Enfin, c'est leurs deux premiers singles qui les a vraiment, enfin les deux disques qui les ont propulsés. Je trouve que il y a une tension, il y a un truc qui est pas complètement pop, mais il y a déjà les mélodies, quoi.
Il y a une ferveur adolescente, ouais. Je te le conseille tout à fait, mais elle est encore présente sur le deuxième, avec en plus des mélodies absolument étonnantes, des influences totalement digérées, comme celle de Cure sur ce morceau « You Don't Care About Us ».
Ouh, ça nettoie tout sur son passage, ça. Que c'est bon, You Don't Care About Us, extrait du deuxième album de Placebo, qui n'était pas conforme à la réputation des seconds albums.
Without You, I'm Nothing. Oui, qui est donc là, le contre-pied total, puisque c'est le deuxième album qui est de toute façon considéré comme le meilleur album.
Comme le meilleur album, l'album en référence. Ouais. Personnellement, je sais que tu seras là non plus pas forcément d'accord. Oui, je pense qu'ils ont jamais fait mieux depuis.
Depuis non, mais moi je vous vraiment un culte au premier disque, mais
que tu places à l'égal de celui-ci.
Ouais, complètement. Ouais. Et moi je vais rester pour mon dernier extrait sur ce cas précis du second disque qui est considéré comme le chef-d'œuvre du groupe en question. Mais avant ça, on va encore jouer un petit peu et aller un petit peu dans tous les sens du second album possible avec les Beatles.
Les Beatles, c'est facile. Le deuxième, tu vois, quand je dis ça, c'est généralement que je vais me planter après.
Non, c'est que tu
cherches. Le deuxième album s'appelle With the Beatles.
With the Beatles, tout à fait.
Là, je me serais planté devant des millions d'auditeurs.
Les Stooges.
Le Stooges, le deuxième album s'appelle 1969.
Funhouse.
Funhouse.
Qui est de 1970.
Ah, j'ai dit le premier.
Bob Dylan, dont on parlait encore.
Ah, Bob Dylan, c'est facile. The Free Will in Bob Dylan.
Tout à fait, en 1963. Le Velvet Underground. C'est toujours un peu confus, le Velvet. On sait jamais trop quand est-ce qu'il commence à faire des disques ou pas, dans quel ordre il sort.
Le premier, c'est l'album à la banane.
Ouais, c'est le Velvet and Nico.
Et le deuxième, il a un titre.
Ouais.
Bon,
c'est moche parce que c'est en plus un titre que tu as cité tout à l'heure. C'est White Light, White It, le deuxième album. Tout simplement. Ouais,
tu vois, j'ai failli le dire, mais j'ai eu peur de dire.
Et pour se rapprocher donc de mon idée finale, Nirvana.
Nirvana, le deuxième album s'appelle Nevermind,
et c'est
là tu m'as aidé, c'est pour me rapprocher.
C'est le sacré chef-d'œuvre du groupe. Le Bleach, le premier, était un peu plus confus et discret. Et dans le cas des Pixies, c'est un petit peu la même chose, même si on peut nuancer un petit peu parce que le deuxième album, qui est donc Doolittle, à mon sens, arrive après un maxi 45 tours qui est sur Fur Rosa et un mini album qui s'appelle Common Pilgrim. Donc selon les cas, on vous dira que c'est pas vraiment le deuxième album, que c'est le troisième ou que c'est le deuxième ennemi.
C'était le vrai premier.
C'était déjà le cas avec Noir Désir, qui avait la même chose, avec Où veux-tu que je regarde, un mini LP, ensuite Veuillez rendre l'âme et Du ciment sous les plaines, qui est de loin son plus mauvais disque. Mais revenons à Doolittle des Pixies, qui est vraiment le disque que je préfère et qui est le disque le plus réputé du groupe. Pour l'illustrer, j'aurais pu vous proposer les morceaux les plus doux comme La Love You, Monkey's Gone to Heaven, qui avait été de parfait single, mais j'ai choisi le plus abrasif possible, en l'occurrence Dead. Ça aussi, ça nettoie les oreilles.
Ouais. Non, mais disons, la pêche. Aujourd'hui, on va calmer le jeu un petit peu avec le blind test. Ouais. Bon, je dois avouer, j'ai un petit peu à me faire pardonner auprès de toi. J'avais systématiquement tapé dans le truc introuvable. Là, cette fois-ci,
le truc dont je me suis aperçu ces dernières semaines, c'est qu'en fait, presque tous tes récents blind tests, tu vas pouvoir me trouver le contre-exemple du premier coup peut-être, étaient en fait des ultra nouveautés et non plus du répertoire. C'était que des choses qui venaient de sortir dans le mois et j'avais pas nécessairement eu l'occasion d'avoir une oreille posée dessus en fait.
Si je ne me rappelle plus de contre-exemple, le contre-exemple va venir à l'instant. Ah. On est à la fois chez toi, on est sur un deuxième album, donc on joue la thématique.
Massive Attack.
Et d'un point.
Ah oui, il faut le titre.
Ah oui, s'il te plaît.
Ah oui, mais je suis.
Ou l'album au moins.
Bah oui, mais.
Excuse-moi.
Je viens de te le dire. Non, mais attends, en même temps, j'ai un trou. Parce que le premier, c'est Blue Lines. Et le deuxième, c'est.
Ah non, mais Massive Attack, là, tu trouves. au premier beat. Hein.
Ouais. Ouais, non, mais c'est vraiment, c'est, oui, c'est cette grosse caisse très humide,
oui,
et
oui,
très lourde,
vraiment,
qui va bien avec la température du studio d'ailleurs. comment s'appelle le deuxième album? Protection.
Absolument, Protection. Et le morceau s'appelle Protection.
Et le morceau s'appelle Protection. Bon. Ouais, oui, bah alors, bah, tu peux t'excuser désormais.
Oui, oui.
Tu peux resserrer les boulons.
Carton plein, carton plein. Une petite référence quand même à la voix magnifique de Tracy Thorn, qui hante ce deuxième album de Massive Attack, qui avait eu aussi des critiques moins bonnes que le premier.
Ouais, vraiment.
Mais eux avaient frappé très fort d'entrée et on attendait peut-être encore plus.
Ouais. Je veux juste revenir sur un petit point qu'on n'a pas précisé au moment où on parlait des Stone Roses, c'est qu'il y a les Stone Roses avec cet album-là se place dans le cas du deuxième album pour les groupes qui n'en feront pas d'autres. Ils ont fait que deux disques officiels. Il y avait Joy Division évidemment qui a eu le même sort avec juste Unknown Pleasure et Closer.
Mais c'était pour des raisons dramatiques évidemment que le groupe s'en arrêtait, ce qui n'est pas le
cas. Mais il y a ce cas aussi des artistes qui dépassent pas les deux disques tout simplement.
Très juste.
Bon bah c'était plaisant cette émission, ça m'a bien plu, on a écouté des chouettes trucs.
Moi aussi.
Ouais. Cherchez chez vous, regardez ce que vous avez comme deuxième album et essayez de juger s'ils sont.
Et surtout n'hésitez pas à écouter le plus de disques possible, ne vous fiez pas à ce qu'on vous dit.
Voilà, je crois que c'est une bonne conclusion.
C'est bien péremptoire encore.
Allez, à la semaine prochaine.